Bonjour. Une femme sur quatre morte cette année en France sous les coups de son conjoint avait déjà porté plainte. Le dernier bilan montre qu'en matière de lutte contre les violences conjugales, le changement est vital. Gérald Darmanin s'empare du sujet et demande aux policiers et aux gendarmes de faire de ces affaires une priorité absolue. Réaction à suivre, le secrétaire national du syndicat UNSA Police est l'invité de ce 13h. Le docteur Macron répond à vos questions. Le chef de l'État est en direct sur les réseaux sociaux en ce moment pour tenter de convaincre ceux qui sont réticents à la vaccination et notamment les jeunes. Des vaccins qui seront plus chers. Pfizer et Moderna augmentent leurs tarifs. Nous verrons pourquoi. Dans ce journal, nous revenons sur ce moment de politique internationale en plein Jeux Olympiques. Une athlète biélorusse se met sous la protection des autorités japonaises et obtient l'asile en Pologne. Au JO où la France obtient 2 médailles de plus ce matin, dont une en or pour Jean-Ki Campois au tir en pistolet. Il a été d'un calme olympien.
France Inter.
Un drame tous les 3 jours. Hier encore, une femme de 48 ans a été tuée à coups de couteau dans l'Aveyron. Son conjoint est le principal suspect. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics tentent d'éradiquer ce fléau des violences conjugales. Mais les statistiques sont là. L'an dernier, 125 personnes sont mortes, victimes de leur conjoint ou ex. Alors après le Grenelle des violences conjugales, après les mesures annoncées régulièrement par la chancellerie, le ministre de l'Intérieur s'empare du sujet. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Cécile.
Le bilan publié ce matin reste terrible, mais il s'améliore.
Oui, avec cette baisse des homicides de 28%, baisse des tentatives d'homicide également, 238 au lieu de 268 en 2019. Les auteurs sont majoritairement des hommes âgés d'une trentaine d'années, mais également de plus de 70 ans pour les meurtres dont la maladie constitue la cause du passage à l'acte. Une quinzaine de cas recensés. Contexte des autres crimes, ils se déroulent souvent au domicile du couple ou de la victime. Une fois sur deux après consommation d'alcool ou de drogue, sur des femmes qui avaient été victimes de violences et dont les 2/3 d'entre elles avaient déjà signalé ces violences auprès des services de police. Un constat qui pousse donc le ministre de l'Intérieur à prendre des mesures qu'il développe dans Le Parisien aujourd'hui. Fini les mains courantes, chaque signalement donnera lieu à l'enregistrement d'une plainte ou à la saisine du parquet. Il y aura un référent violence conjugale dans chaque commissariat et gendarmerie. La nomination d'un coordinateur national comme il en existe pour le terrorisme ou les stupéfiants, et pour briser le silence qui entoure souvent ces drames, la création d'une application pour permettre à chaque témoin de ces violences de les signaler.
Et pour réagir à ces annonces de la place Beauvau, nous posons 3 questions à Thierry Clerc, secrétaire national du syndicat UNSA Police. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Parmi les 102 femmes décédées cette année, 1 sur 4 avait donc porté plainte. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il y a un problème structurel dans la manière dont la police traite ses affaires ?
Disons qu'il y a déjà des instructions du ministre qui avaient été données justement pour donner une impulsion sur la gestion des dossiers. Faut dire qu'il y a une grande implication de nos collègues dans ce domaine-là. Je veux dire, il y a une attention qui est particulière, bien sûr, qui est donnée, puisque ce sont des violences conjugales, des femmes qui, très souvent d'ailleurs, qui, dans la majorité des cas, dans le cas des violences conjugales, des femmes qui sont victimes. Donc, il s'agit d'une part d'apporter une attention, d'autre part de tenter d'apporter aussi des réponses. Mais il y a aussi une complexité dans la gestion de ces dossiers, puisque quelquefois, les personnes commencent à s'exprimer, ne veulent pas forcément déposer plainte parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il n'y a pas forcément d'emploi dans la famille et parce qu'il y a toute une gestion également familiale. Il y a tout cet aspect, je dirais, à gérer qui est aussi assez complexe.
Donc, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas aussi simple que le ministre le dit ce matin dans la presse. Il vous demande de placer tout en haut de la pile ces plaintes, donc avant cambriolage, stupéfiant, rodéo. Concrètement, comment vous faites pour gérer toutes ces priorités en même temps ?
C'est vrai que le ministre avait déjà donné, je dirais, une impulsion sur la gestion de ces dossiers. Là, il enfonce le clou en disant que ces dossiers doivent être gérés de façon prioritaire. Je dirais que nos collègues, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. C'est vrai que tous les services aussi n'ont pas les mêmes volumes de dossiers. Je veux dire, on n'est pas dans une gestion de statistiques, mais dans une gestion d'êtres humains. Il y a des services qui sont plus impactés que d'autres par rapport à justement des situations de violence conjugale. Il y a également, je dirais, toutes les violences aux personnes qui font l'objet aussi d'attention particulière. Et je dirais que c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que l'on s'inscrit.
Mais sur le terrain, ça va être possible d'améliorer ces statistiques, hein ?
C'est compliqué, on a une procédure, on le sait, déjà on a des volumes de dossiers dans ce qu'on appelle des portefeuilles de dossiers qui sont quand même relativement importants vis-à-vis de nos collègues, qui leur sont donnés avec une procédure pénale qui est déjà relativement lourde. Ce sont également des enquêtes qui demandent, ces enquêtes intrafamiliales, ces violences intrafamiliales souvent sont des enquêtes qui demandent beaucoup d'actes d'investigation. Il y a souvent des auditions des membres de la sphère personnelle, de la famille, des proches, des amis, également du milieu professionnel. Donc, il y a tout un travail d'investigation qui est long et complexe, dans le cadre aussi d'une procédure pénale, et je le redis aussi, j'en profite aujourd'hui pour dire qu'elle est relativement lourde et sur laquelle, véritablement, il faut s'atteler sur une simplification. C'est aussi une des clés de la réussite.
Merci Thierry Clerc, secrétaire national du syndicat UNSA Police. Parmi les drames marquants de ces derniers mois, il y a le féminicide de Mérignac en Gironde, début mai. Chaïnès, 31 ans, a été brûlée vive dans la rue par son ancien compagnon. Jean-Philippe Degnaud, vous êtes toujours avec nous. Un rapport a été remis au Premier ministre la semaine dernière. Il pointe une série de graves dysfonctionnements.
Oui, et le ministre de l'Intérieur a lancé par-dessus une enquête IGPN après que le Canard enchaîné a révélé que le policier qui avait enregistré la plainte de Chaïnès un mois avant qu'elle soit tuée venait d'être lui-même condamné pour des violences conjugales. Sa hiérarchie n'aurait pas dû le laisser en contact avec le public, commente Gérald Darmanin. Par ailleurs, courroucé que cet épisode n'est pas figuré dans le premier rapport d'inspection rendu public il y a deux mois, des sanctions seront prises si les faits sont établis, promet le ministre.
Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. Il est l'un des membres du gouvernement à être inquiété par la justice. Alain Griset affiche sa sérénité. Le ministre des PME doit comparaître dans un mois et demi, le 22 septembre, devant le tribunal correctionnel de Paris. Il lui est reproché d'avoir rendu une déclaration de patrimoine incomplète, un trou de 170 000 euros sous forme de participation financière dans un plan d'épargne d'action. La justice cherche à savoir si cet oubli est volontaire, mais Alain Griset n'est pas inquiet à la perspective de ce procès.
J'ai eu, la confiance renouvelée du président de la République, du Premier ministre. Je les en remercie. Ensuite, j'attends sereinement cette convocation. Ça va me permettre de pouvoir expliquer, donner les justificatifs et montrer ma bonne foi dans cette opération. Donc il n'y a rien qui m'empêche de pouvoir travailler. Je suis concentré sur mon action, déterminé à poursuivre la mission qui m'a été confiée.
Procès le 22 septembre, est-ce qu'en cas de condamnation, vous vous engagez aujourd'hui à démissionner ?
Bon, d'abord, je n'envisage pas de condamnation. Et ensuite, tout ça dépend de la décision du président de la République et du Premier ministre.
Alain Griset, interrogé par Yannick Falt sur France Info ce matin. Vous avez peut-être entendu l'alerte enlèvement le concernant ce week-end. Le père de Douy a été présenté à un juge ce matin à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Il devrait être mis en examen pour soustraction de mineurs. L'homme a enlevé son enfant de 8 ans à Lannion vendredi soir, alors qu'il exerçait son droit de visite encadré à la maison du département. Tous deux ont été retrouvés le lendemain à une quinzaine de kilomètres de là.
France Inter, le journal de 13h, Cécile Bideau.
Au lendemain des manifestations contre le pass sanitaire, où on a encore entendu de nombreux slogans anti-vaccins, Emmanuel Macron répond en direct aux sceptiques. Sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, le chef de l'État est apparu ce matin en t-shirt depuis ses vacances au fort de Brégançon, se filmant lui-même et invitant les Français à lui poser des questions.
Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur. Beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi, il faut bien le dire. Alors, j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi. Et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible.
Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Du service politique de France Inter. Alors avec cette méthode assez inattendue de la part d'un président de la République, Emmanuel Macron vise clairement les jeunes.
Oui, évidemment, les jeunes, premiers utilisateurs de ces réseaux sociaux et parmi les premiers touchés aussi de cette quatrième vague. Une épidémie de jeunes, disait même Olivier Véran il y a deux semaines. Le président sait que c'est chez eux, chez ces jeunes, qu'il peut trouver ceux qui lui permettront d'atteindre son objectif de 50 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août. Voilà pourquoi il prend bien soin de se montrer ouvert, à l'écoute, loin de ses déclarations du week-end dernier quand il avait fustigé l'égoïsme et l'irresponsabilité de ceux qui refusent l'injection. Un changement de ton dicté aussi par la fronde anti-pass sanitaire, vous en parliez Cécile, le nombre de manifestants a presque doublé en deux semaines, plus de 200 000 personnes dans les rues samedi. L'Élysée a beau mettre ce chiffre en balance avec les plus de 500 000 Français qui se sont fait vacciner dans le même temps, une telle mobilisation est loin d'être négligeable en plein cœur de l'été, surtout en plein week-end de chassé croisé. Et Emmanuel Macron devrait donc répondre aux questions via une série de vidéos postées à partir de demain, même si pour l'instant elles sont un peu noyées, ces questions, au milieu des centaines de réactions sur son t-shirt.
Décidément, le variant Delta pose bien des soucis dans la gestion de cette crise sanitaire en plein été. Non seulement il fait repartir les contaminations à la hausse, mais la pression sur les hôpitaux et provoque un nouveau confinement en Martinique et sur l'île de la Réunion. Mais en plus, il entraînerait une augmentation des prix des vaccins contre le Covid-19. Le Financial Times a révélé hier que Pfizer et Moderna allaient augmenter les prix de leurs vaccins. Selon le quotidien britannique qui a consulté le contrat entre les laboratoires et l'Union européenne, cette augmentation se situe entre 2 et 4 euros par dose. Fabien Cazot, comment l'explique-t-on ?
Par l'adaptation des vaccins aux différents variants. Explication avancée ce matin par le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Les labos auraient tiré argument des nécessaires efforts de recherche contre les différents variants apparus depuis un an pour augmenter le prix des doses. 4 euros de plus sur le Pfizer, ce qui représente tout de même plus de 25% d'augmentation. Évidemment, ceux qui veulent faire du vaccin anti-Covid un bien commun de l'humanité plutôt qu'une source de profit pour les labos s'étranglent, comme Juliana Veras pour Médecins du Monde.
Nous sommes horrifiés par cette nouvelle et notamment comment l'Union européenne est en train de gérer ses contrats en complète obscurité. Et vraiment, nous nous rendons compte combien nous restons otages de quelques laboratoires. Nous apprenons par hasard en fait des choses qui devraient être partagées de façon beaucoup plus démocratique pour que la société puisse avoir une visibilité claire sur notamment combien coûtent ces vaccins qui ont été largement financés par les pouvoirs publics.
Les négociations sur les prix sont encore en cours, précise le gouvernement, assorties de clauses que l'Union européenne veut rendre plus strictes, notamment des calendriers de livraison plus précis sur lesquels les labos devront s'engager sous peine de pénalités financières en cas de retard.
Merci Fabien Cazot. Le nombre de malades du Covid hospitalisés continue à augmenter avec plus de 7500 patients, soit 300 de plus en 24 heures. Au téléphone sonne ce soir, nous prenons le pouls du milieu hospitalier en pleine quatrième vague. Comment ça va à l'hôpital? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez d'ores et déjà donner votre avis sur l'appli France Inter et Marion Lourd vous donne rendez-vous à 19h15. Quand la diplomatie s'invite aux Jeux Olympiques, plusieurs pays européens proposent aujourd'hui d'accorder l'asile politique à l'athlète biélorusse Kristina Snimanouskaya. Hier, la sprinteuse a été conduite contre son gré à l'aéroport de Tokyo. Les autorités de son pays, dirigées d'une main de fer par Alexandre Loukachenko, n'ont pas apprécié qu'elle critique sa fédération qu'il avait alignée de force sur le relais. À l'instant, on apprend que la Pologne lui accorde un visa humanitaire. Éric Biegala.
Alors même qu'elle était en passe d'être reconduite à l'aéroport de Tokyo Haneda hier, la sprinteuse de 24 ans postait sur Instagram un véritable appel au secours. Je demande l'aide du CIO, on fait pression sur moi et on veut me faire quitter le pays de force. Sans mon consentement, expliquait-elle, je demande au CIO d'intervenir. Censée concourir sur les 100 et 200 mètres, la sprinteuse s'était vue intimer l'ordre de participer aux 4x400, épreuve pour laquelle elle n'était absolument pas entraînée. Et ce sont les critiques public de l'organisation sportive biélorusse par l'athlète qui ont, semble-t-il, motivé cette décision abrupte de la rapatrier hier. Arrivée à l'aéroport d'Haneda, Kristina Tsimanouskaya s'est finalement placée sous la protection de la police japonaise et n'a pas embarqué. Elle refuse de rentrer en Biélorussie. Elle pourrait demander l'asile à l'un des pays de l'Union européenne. Ce matin, chez nos confrères de RFI, le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune confirmait que la chose était à l'étude.
Un certain nombre de pays européens, nous le regardons avec nos partenaires, ont proposé, si on peut l'offrir dans les prochaines semaines ou les prochains jours, l'asile politique. Je crois que ce serait l'honneur de l'Europe de le faire.
La République tchèque, la Pologne et la Slovénie ont d'ores et déjà annoncé avoir offert à l'athlète biélorusse visa humanitaire ou asile politique.
Et la Pologne, donc, à l'instant, lui accorde un visa humanitaire. On apprend également que son mari a fui en Ukraine. L'appel à l'aide de la sprinteuse biélorusse, c'est à lire sur franceinter.fr. La France décroche une 6e médaille d'or et c'est une discipline méconnue qui accroche la lumière ce midi. Le tir au pistolet à 25 mètres feu rapide. Jean Quicampoix a visé juste dans le mille pour un titre olympique. Envoyé spécial de France Inter à Tokyo, Xavier Monferrand.
Rien ne le perturbe, ni sa bouteille d'eau qui tombe en pleine finale, ni la présence de deux anciens champions olympiques autour de lui. La main de Jean Quiquempoix ne tremble pas, ou si peu. Le Français était intouchable, une maîtrise telle qu'il a même égalé le record olympique détenu par le Cubain Leurys Poupeau depuis 2012 et qui fut le dernier à lui résister sur le stand de tir d'Asaka. Jean Quiquempoix était venu chercher l'or et c'est avec l'or qu'il va rentrer en France. Alors forcément, l'armure se fend un peu.
Beaucoup d'émotions, c'est des frissons. C'est vrai que c'est la première fois que les larmes montent quoi sur un podium, donc c'est énormément d'émotion pour cette médaille olympique.
Bah, elle est magnifique. Moi, j'avais déjà l'argent à la maison, donc ça change pas grand-chose, mais voilà, je suis vraiment très très heureux d'avoir gagné cette médaille aujourd'hui.
Et Jean Quiquempoix n'est pas au bout de son histoire avec les JO, bien au contraire. En argent à 20 ans, le voilà en or à 25, champion olympique, un titre qu'il défendra chez lui à Paris dans 3 ans et toute la pression qui va avec, mais ça tombe bien. Elle lui glisse dessus. Tokyo, Xavier Monferrand, France Inter.
Pour l'équipe de France d'équitation, en revanche, c'est une déception car elle était tenante du titre. Au concours complet, elle se contente d'une médaille de bronze battue par la Grande-Bretagne et l'Australie. Samir Aït Saïd, lui, termine au pied du podium, quatrième de la finale des anneaux alors qu'il était venu chercher l'or. Le gymnaste porte-drapeau des Bleus est un survivant, revenu après une terrible fracture au JO de Rio et encore affaibli par une blessure au bras. C'est un battant, mais il était quand même au bord des larmes après sa défaite.
De la tristesse à mort. J'ai failli déclarer forfait, mais il est hors de question. J'ai pris 3 jours de repos avec le biceps et juste avant de faire ma finale, je me suis échauffé et j'arrivais à rien faire. Je sentais des coups de couteau dans mon biceps. Et en fait, les coachs et les kinés, ils ont vu. Et Rodolphe me demande, est-ce que tu veux faire forfait? J'ai dit, mais c'est mort. Si ça doit péter, ça pètera là-haut. J'ai pas abandonné. Il y a tout un pays derrière moi. Quand on m'a dit, est-ce que tu veux déclarer forfait? J'ai dit, jamais. Si ça doit péter, ça pètera. J'ai fait ce que j'ai pu. Il faut toujours qu'il m'arrive un truc. Quand je suis au top de ma forme, je peux faire une médaille. Il faut toujours qu'il m'arrive quelque chose.
Samir Aït Saïd au micro de Fanny Le Chevestrier. Autre histoire douloureuse, celle de la gymnaste américaine Simone Biles. Après avoir renoncé à 4 finales à cause de problèmes de vertige, un phénomène qu'on appelle perte de repère, elle est bien inscrite pour la finale de la poutre demain. En basket, les Français sont qualifiés pour les quarts de finale malgré leur défaite logique contre les géantes américaines. Qualifiés également pour les quarts, les handballeuses tricolores victorieuses sur le Brésil 29-22. Alors que nous avons basculé de l'autre côté de l'été, le bilan du tourisme en juillet n'est pas aussi mauvais que la météo. L'objectif affiché cette année, c'est d'accueillir 50 millions de touristes étrangers en France, 15 millions de plus que l'an dernier. Dans les Alpes-Maritimes, les hôtels du littoral sont remplis aux 2/3 actuellement et les chambres d'hôtes font le plein dans l'arrière-pays. Reportage de Violaine Hill.
À l'Alpenrock, chambre d'hôte au-dessus de Grasse en moyenne montagne, le gérant a vu la clientèle changer.
Beaucoup de personnes qui partaient à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France à l'hôtel et finalement ont découvert l'arrière-pays. Et c'est vrai que dans l'arrière-pays, les hôtels n'existent pas et les chambres d'hôtes se sont développées.
Le patron du restaurant La Bergerie le constate aussi.
Des gens de Grasse, de Cannes, de Nice, même de Marseille qui viennent.
Des locaux qui recherchent calme, fraîcheur.
On vient de Mougins, on voit que la population sur le littoral commence à augmenter. Donc là maintenant on monte, nous aussi on veut s'aérer.
On adore, c'est tranquille, c'est frais, il y a moins de monde.
Et ici on marche.
On fait de la randonnée essentiellement et puis là on va aller à l'acrobranche.
C'est un sport un peu dans les arbres, c'est une corde avec un peu une poulie et on glisse dessus.
Certains trempent l'épée dans les torrents, d'autres regardent vers le ciel.
Cueillette, de lavande, de fraises des bois. On cherche des aigles, il y a des aigles aussi qui tournent dans la plaine de Caille, il y a des éperviers, donc on est très attentifs.
Ouais, c'est magnifique, le coin est magnifique.
Un enthousiasme local pour la montagne et il y a eu beaucoup moins de touristes venus de l'étranger.
Violaine, île de France Bleu Azur où il fait beau.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Parce qu'on a un peu l'impression de se répéter, hein, instable sur le nord, ensoleillé dans le sud.
Oui, on va à peu près dire ça toute la semaine. Hein. Cet après-midi sera largement ensoleillé même hein, sur le pourtour méditerranéen et de Midi-Pyrénées au sud de l'Aquitaine puisque le ciel restera bien dégagé. Du nord Aquitaine à Auvergne-Rhône-Alpes et sur les Pyrénées, les éclaircies seront belles aussi. Mais quelques averses pourront tout de même se développer en montagne même si elles resteront isolées. En Corse, c'est un voile de nuages élevé qui atténue le soleil. Et puis des Charentes au Jura et sur toutes les régions du nord, les éclaircies seront plus timides. Le soleil arrivera quand même à faire quelques belles apparitions, notamment entre le centre Val-de-Loire et les frontières allemandes et près près des plages de l'Atlantique. En revanche, l'après-midi sera aussi émaillé d'averses par moments et ces averses pourront être orageuses, en particulier au nord de la Seine et sur le quart nord-est. Et puis l'ambiance reste fraîche cet après-midi avec des maximales généralement 2 à 4 degrés sous les normales saisonnières. Les maximales seront comprises entre 19 degrés à Brest et 26 degrés à Toulouse avec 23 degrés pour Paris. Même autour de la Méditerranée où il fera 27 à 32 degrés cet après-midi, les températures sont sous les valeurs d'un début août.
Sébastien Léas de Météo France, merci.